Alors oui, vous avez raison de passer la dernière photo. Donc, il n'y a pas de trace, si vous voulez, visible du martyr quand vous allez à Nagasaki aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste en fait sur l'emplacement supposé du martyr? Il y a un monument donc qui a été érigé hein, si vous voulez, en l'honneur des martyrs. Alors voilà, c'est la stèle hein, qui a été construite. Alors parmi ces 20, ils sont 26 hein, si vous voulez compter un par un. Donc c'est majoritairement des membres franciscains, des membres du tiers ordre. Et il y a quand même 3 jésuites. Et alors, oui, alors, ils ont été pris, si vous voulez, par hasard. Non, en fait, ils n'avaient pas de chance. Ils ont été pris sur le chemin, mais ils n'étaient pas destinés, si vous voulez, la persécution ne visait pas la compagnie. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que juste en dessous du mémorial, juste à côté, vous avez une petite plaque qui est à la gloire du chroniqueur jésuite. Qui a écrit une grande histoire de la mission du Japon, qui s'appelle le chroniqueur s'appelle Louis Froch. Et puis en dessous, vous avez un musée qui s'appelle le musée des 26 martyrs. Mais par qui est-il tenu? Il est tenu par les jésuites. Par le père qui s'appelait Renzo De Luca, qui maintenant est devenu le provincial jésuite de la compagnie. Donc je ne sais pas si c'est la petite revanche a posteriori des jésuites pour s'approprier le martyr de 1597, mais voilà, en tout cas c'est plutôt devenu un monument jésuite d'une certaine manière. En tout cas les signes jésuites sont partout, plus que franciscains, alors même que c'est un martyr franciscain et pas jésuite hein. Parce que d'ailleurs les jésuites, même s'ils disent voilà, on a 3 jésuites qui ont été pris, voilà, on veut rien avoir avec tout ça. Bon, c'est pas tout à fait le cas, on va dire aujourd'hui.
Et pourquoi il y en a deux qui sont plus jeunes? C'est des enfants.
Oui.
Il y a deux enfants.
Ils sont plus jeunes, si vous voulez, voilà. Ils ont une quinzaine d'années, en fait, si vous voulez.
Alors, est-ce qu'ils ont été canonisés, finalement?
Oui, ils ont été tous canonisés en 1862 et 1627 pour la béatification.
Donc c'est bien en haine de la foi.
D'après Rome.
Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. Qui nous apprend plein de choses et fait réfléchir sur l'histoire de la mission, sur les rapports entre les cultures aussi. Je suppose qu'il y a beaucoup de réactions et de questions maintenant.
S'il vous plaît, il n'y a que les missionnaires qui ont été exécutés ou les croyants locaux ont été pris dans la tourmente?
Alors ça dépend à quelle époque vous situez. Non, ici il n'y a que des missionnaires, si vous voulez. Bon, oui, après, il y a le cas des tertiaires qui est un peu à la frontière. Par contre, les grandes persécutions de masse, en quelque sorte, contre les chrétiens, les convertis, hein, on va dire, c'est au début du XVIIe siècle, hein, lorsque le christianisme va être interdit au début du XVIIe. Et là, vous avez des martyrs. Donc là, tout le monde va être pris. Hein, si vous voyez, on ne fera plus tellement de différence entre franciscains, jésuites, converti, voilà, tout le monde va être mis sur le même plan.
Il y a plusieurs choses à apporter quand même. Bon, d'abord, la question des martyrs. Il n'y avait que 6 franciscains, au sens strict.
Oui.
C'était les 6 missionnaires qui venaient des Philippines, parmi lesquels il y a donc un Mexicain et il y a un métis d'Inde. Mm-hmm. Bon. Les autres sont des tertiaires franciscains. Mm-hmm. Y compris des catéchumènes.
Oui, oui, tout à fait.
Il y avait des catéchumènes franciscains. Et puis alors, la deuxième victoire des jésuites, vous avez dit la première, c'est un jésuite qui tient le mausolée. Et une deuxième victoire des jésuites, c'est que jusqu'au Concile Vatican II, le sanctoral de l'Église universelle célèbre le martyr de Saint Pierre-Baptiste et ses compagnons martyrs du Japon. Mm. Pierre-Baptiste étant le chef de la mission franciscaine. Mm. Et depuis le Concile Vatican II, il y a toujours la célébration des martyrs du Japon, mais c'est Saint Miki.
Oui, c'est vrai.
Miki étant un professeur de jésuite, donc qui a été embarqué dans le... Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que, entre temps, il y a eu la décolonisation, et donc les liturges romains se sont souciés de donner au Japon un chef de martyr, en quelque sorte, qui soit originaire du Japon. Tandis que les autres étaient des Espagnols, un Mexicain, un Goanais. Donc, pour des raisons, donc, disons, diplomatiques, on a donc mis un jésuite comme chef de la mission, non pas comme chef, mais comme principal représentant de la mission. Donc, dans le Bicêtre, vous avez Saint Mickey et ses compagnons martyrs, Mickey étant le jésuite professeur qui s'est trouvé embarqué dans l'affaire. Alors, il y a quand même une petite remarque quand même. Quand on dit les motifs du martyr, il ne faut pas oublier que nous possédons des textes antérieurs aux martyrs, qui sont donc des écrits du chef de la mission, Pierre-Baptiste.
Oui, oui, tout à fait.
Et dans ce récit, Pierre-Baptiste souhaite le martyr. Ils vont au Japon pour être martyrs. Et donc, les motifs sont quand même, ils sont partis par amour du Christ, et puis, bon, ils ont été embarqués dans une histoire qui, comme vous dites, qui est d'ordre commercial, peut-être, mais eux sont partis pour être martyrs. Donc, c'est dans ce sens-là que Rome a pu les canoniser en disant ils sont morts pour témoigner du Christ.
Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait classique dans la mission de partir pour le martyr. Alors, ce qui est un peu paradoxal, on va dire, pour le Japon, c'est que précisément, c'était pas une terre de martyrs au départ, de ce point de vue-là. Alors, bon, ils pouvaient jouer sur l'épisode de 1587, mais aucun jésuite n'a été crucifié en 1587. Ils ont très bien réussi leur coup, hein, de ce point de vue-là, à être les premiers martyrisés au Japon. Mais comme je vous disais, vous prenez les missions en Amérique, la recherche du martyr, c'est tout à fait c'est l'apothéose, hein, on va dire, de la mission. Ce que vous retrouvez d'ailleurs dans les lettres de demande pour partir en mission, hein, une des premières, voilà, quand les missionnaires d'Europe demandent à être affectés dans les missions outre-mer, une des premières justifications pour demander tel ou tel terrain missionnaire en particulier, c'est bien souvent la possibilité d'être martyrisé. Donc effectivement, ça fait tout à fait partie de leur origine.
Alors il y a autre chose aussi, à propos de la rivalité jésuite et franciscain, ce n'est pas uniquement une question religieuse, c'est d'abord une question politique, parce que depuis 1495-96, il y a donc eu le système de la réservation des territoires sous espagnol ou sous portugal. Et alors les missionnaires de Manille ont donc rejoint Manille, après la découverte de Magellan, ils ont rejoint Manille à partir de l'Amérique du Sud, à partir de l'Amérique centrale, à partir du Mexique. Et donc, il y a la voie espagnole qui part d'Europe, qui va en Amérique, qui traverse l'Amérique, qui traverse le Pacifique, qui arrive aux Philippines et qui arrive au Japon, ça c'est la voie espagnole. Et puis il y a la voie portugaise qui passe par le contournement de l'Afrique, Ceylan, et puis le Japon. Et alors, les souverains des nations colonisatrices tenaient absolument au respect absolu de cette loi. Un missionnaire ne pouvait pas passer par l'autre voie, c'était absolument interdit, parce que c'était une façon de mettre en cause la souveraineté.
Alors, c'est à nuancer, en fait. Ça, si vous voulez, c'est sur le papier. Alors, la chose qu'il faut quand même aussi avoir en tête, c'est que, donc, je suis d'accord, il y a cette date de 1494, mais l'autre date fondamentale, c'est 1580, qui est la date d'union des deux couronnes, c'est-à-dire le moment où Philippe II d'Espagne devient aussi le souverain du Portugal, devient Philippe Ier du Portugal. Du coup, les empires sont réunis. Alors, officiellement, je suis d'accord, en 1581, Philippe II d'Espagne s'engage à respecter la séparation des empires. Sauf que, pas de chance, le Japon est en fait pile sur la ligne. Alors après, bon, ils trafiquent plus ou moins d'un côté ou d'un autre pour savoir où est-ce qu'est la ligne, parce que le calcul n'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les faits, si vous voulez, on va dire du point de vue de l'Empire, fin 16e, début du 17e, c'est le début des ennuis. Parce que vous avez la montée des rivalités européennes, hein, notamment dans cette zone-là, il y a la puissance hollandaise, plus tard il y aura la puissance anglaise qui va arriver, notamment au Japon. Et donc oui, officiellement, la ligne est censée être une ligne de complète séparation. Sauf que on remarque que régulièrement, notamment d'un point de vue par exemple économique, mais aussi d'un point de vue militaire, entre les deux territoires ibériques de l'Extrême-Orient, à savoir la Macao portugaise et la Manille espagnole, vous avez des cas de coopération qui sont en fait relativement fréquents. Alors d'ailleurs, les franciscains jouent sur cette ambiguïté. Vous avez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que aussi, comme vous le disiez, il y a une rivalité religieuse, mais c'est que des fois, on instrumentalise aussi les aspects politiques de cette rivalité ibérique, des deux côtés, hein, d'ailleurs, les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que que ce soit les jésuites ou les franciscains, défendent deux conceptions de l'Empire, qui est complètement différente. Donc évidemment, pour les jésuites, c'est la conception, comme vous l'expliquiez, d'un empire qui est une ligne fermée. Alors donc, d'un côté, le Japon qui est réservé aux Portugais, de l'autre côté, donc, les Espagnols qui n'ont pas le droit d'y rentrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les franciscains défendent, il faut remarquer que depuis 1580, puisque nous sommes un même empire, que la voie qui passe par la Nouvelle-Espagne est plus rapide pour arriver jusque en Asie. Qui dit plus rapide ? Alors c'est vrai que c'est plus rapide, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un an. De l'autre côté, ça peut mettre 2-3 ans. Si vous loupez la mousson, ça peut être très très long, hein, pour traverser l'océan Indien, traverser ensuite la mer de Chine, faire comme vous l'avez expliqué tout le tour de l'Afrique. Donc qu'est-ce que disent les franciscains ? Ils savent compter, évidemment, puisque c'est moins long, c'est moins cher. Donc pourquoi, autrement dit, pourquoi est-ce qu'il faut absolument respecter la voie des Indes orientales si on peut trouver une autre solution qui est moins chère ? Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils suggèrent tout simplement aux jésuites de prendre le même chemin qu'eux et de prendre le chemin espagnol qui est beaucoup mieux au final que la voie traditionnelle. Alors, dans les faits, d'ailleurs, les jésuites, bon, évidemment, vous avez l'écrit officiel qui dit on respecte la séparation, mais quand vous regardez certains autres écrits jésuites, ils envisagent la possibilité, quand même. Donc, c'est plus ambigu, on va dire, il y a aussi toujours ce qui est affiché, la rivalité, l'opposition qui est franche, c'est beaucoup, à mon avis, plus nuancé dans les faits, et même du point de vue religieux, au niveau local. On va monter toujours en épingle l'opposition avec l'évêque. Les choses vont quand même bien se tasser au début du XVIIe siècle, hein, entre l'évêque et les franciscains. Bon, c'est pas les meilleurs amis, mais ça va.
Alors,
quand même.
À propos de l'évêque, moi, je vais le défendre un petit peu, l'évêque. L'évêque, en fait, il ne fait qu'appliquer un décret du général des jésuites. Le général des jésuites a obtenu de Rome, peu d'années auparavant, un décret d'excommunication pour les missionnaires qui ne seraient pas jésuites et qui rentreraient au Japon. Et alors, pour éviter cette histoire-là, Pierre Baptiste, en partant de Manille, se fait donner un mandat officiel d'ambassadeur, consul, si vous voulez. Il se fait donner une mission diplomatique pour pouvoir rentrer au Japon en disant « Moi, je suis envoyé non pas par le pape ou par mon ordre, mais par « Je vais faire une mission diplomatique. » Et alors, paradoxalement, au début, les jésuites, semble-t-il, ont bien accueilli les franciscains. Non ?
Quand vous lisez par exemple la chronique de Louis Freuch, le chapitre est intitulé quelque chose comme « De l'arrivée des franciscains et de tous les malheurs qui ont suivi ». C'est plus ou moins la teneur, on va dire, du message. En tout cas, la mission de Pedro Bautista, Pierre Baptiste. Puisque le tout début, on va dire, alors c'est un dominicain, hein, qui est arrivé au final en premier dans les années 1580. Après, il y a eu quelques franciscains. Bon, tant qu'ils s'installaient pas, ça allait bien, hein, on voulait bien qu'ils viennent faire une petite mission diplomatique, et encore, c'était pas non plus très bien accueilli. Pourquoi ? Parce que il y avait la crainte sous couvert de cette mission diplomatique, il y a aussi le début d'établissement de liens économiques entre Manille et le Japon. Et il y avait la crainte que ce développement des liens économiques entre Manille et le Japon ne porte préjudice au commerce entre Macao Et le Japon, le commerce portugais. Donc on retrouve un peu la rivalité, d'autant plus que voilà, les jésuites se finançaient en partie par le commerce de Macao, enfin entre Macao et Nagasaki. Donc si le commerce côté portugais diminuait, les jésuites avaient aussi un petit peu peur que quand même leur argent disparaisse ou diminue en tout cas.
Un dernier détail, c'est à propos de la personnalité des martyrs. Il y en avait un, donc celui qui est originaire d'Inde, était un métis. À une époque, les métis sont très méprisés, y compris par les missionnaires en général. Et donc, ce métis qui est originaire d'Inde, donc, probablement un métis à la fois moitié espagnol, moitié indien, il va servir de propagande aux franciscains pour régler la question des métis au Brésil. Parce que les franciscains au Brésil les Capucins aussi, d'ailleurs, tout le temps après, ont une politique de protection des métis, voyez, contre les Gaulois officiels. Et donc, désormais, il y a un saint, enfin, il y a un bienheureux, un martyr, un métis que l'Église va adorer, etc. Voyez. Ils vont s'en servir pour ça. Et donc, ce sont des choses... Ça explique aussi les répercussions internationales. On met en valeur celui qui est au Mexique, et on met en valeur celui qui allait en Inde, et ça va servir une politique missionnaire générale.
Tout à fait.
Excusez-moi d'être si lourd.
Mais pourquoi ils ont été massacrés soudain Quelle est la raison officielle?
Pour le martyr de 1597,
oui.
Ben, c'était la crainte, si vous voulez, que les franciscains soient en quelque sorte la tête de pont d'une invasion par les Espagnols.
D'accord.
Voilà. Sur le modèle de ce qui a été fait pour l'Amérique, si vous préférez.
D'accord. Mais eux, les franciscains, ils disaient rien de mal contre l'empereur ou les Japonais ou la façon prestigieuse d'être la politique du Japon.
C'est compliqué, si vous voulez, dans le sens où faut avoir un peu en tête la géopolitique, si vous voulez, de la mer de Chine à cette époque-là. C'est-à-dire que vous avez un double phénomène qui est à la fois le phénomène de la piraterie japonaise, qui est très importante dans ces eaux-là, et vous avez eu plusieurs attaques, notamment par ces pirates, des côtes des Philippines. Plus vous avez eu, si vous voulez, alors des velléités, on va dire, de conquête par le Japon des Philippines à cette époque-là. C'est sur le papier. C'est d'ailleurs, enfin, les Philippines ont reçu une petite lettre, si vous voulez, officielle des dirigeants japonais pour dire on veut vous conquérir. Bon, c'est pas allé plus loin. Le problème, c'est que quand on dit les Philippines espagnoles, c'est très abusif d'une certaine manière. Les Espagnols sont très peu nombreux, si vous voulez, aux Philippines. Donc vous avez eu la crainte. Mais que face à cette... à Manille, par exemple, vous avez peut-être 300 peut-être, je pense, espagnols, pas plus. La majorité de la population, c'est quoi? C'est des Chinois. À Manille, où il y a une communauté aussi japonaise. Donc, quelle était la crainte, on va dire, de la part des Espagnols de Manille? C'était d'être envahi par le Japon. Donc, ce qu'ont mis aussi en avant les franciscains, c'était de dire, voilà... Une fois qu'on sera au Japon, on pourra servir d'informateur, vous prévenir si jamais il y a une tentative d'invasion de la part des Philippines. Mais, si vous voulez, les Espagnols étaient... Alors, si, des fois, il y a eu des plans d'invasion du Japon, mais c'était assez utopique. Il y a même eu des plans d'invasion de la Chine, hein, si vous voulez. Alors là, c'est encore plus utopique de la part des Espagnols. Mais... Les franciscains n'étaient pas menaçants, si je puis dire, pour le pouvoir japonais. C'est dans ce contexte aussi, si vous voulez, voilà, régional, dans le contexte, comme on l'a expliqué, si vous voulez, local, de tensions avec les religions dans l'archipel, de construction du pouvoir japonais aussi, en partie contre les religions, si vous voulez, enfin, contre les religions, disons, pour asseoir son influence politique sur les religions qui sont présentes dans l'archipel, que vous avez eu ce déclenchement des persécutions.
Une autre question?
Déjà, j'aurais aimé avoir un peu une description du contexte religieux du Japon, de l'époque, pour qu'on puisse un petit peu mieux saisir les deux parties, en fait, les deux côtés. Et puis, En même temps, je trouve que c'est assez troublant parce que finalement, la description que vous faites, qui est peut-être vraie, de l'état d'esprit des jésuites et des franciscains, nous laisse à penser qu'il y avait énormément de convoitises dans tout ça. Et voilà, bon, moi je reste sur une question. Peut-être qu'il y a des franciscains là qui pourraient donner leur avis.
Alors, de convoitise de quoi ?
Ben de la part sur le plan religieux.
Oui.
De la part de ces... On a l'impression que chacun essayait d'être plus fort que l'autre. À vous entendre, c'est tout de même assez... c'est pas très... ça témoigne d'une spiritualité quand même assez particulière.
Il faut avoir en tête que vous êtes, si vous voulez, dans... Ça paraît peut-être particulier aujourd'hui, mais c'est tout à fait courant, en fait. Au XVIe siècle, c'est rivalité missionnaire. Vous allez en Inde, vous allez en Amérique, c'est exactement, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Vous allez aux Philippines, qu'est-ce qu'a fini par faire le roi face aux disputes des ordres religieux, franciscains, jésuites, augustins, dominicains? Il a carrément établi des aires missionnaires, en disant, voilà, vous avez tel village, vous tel village. Comme ça, ça évitait, si vous voulez, les disputes entre les ordres religieux. Donc c'est pas le Japon n'est pas du tout, si vous voulez, une exception de ce point de vue-là. Alors c'est le contexte, voyez, de l'Église qui est aussi militante, hein, à cette époque-là, de la contre-réforme. La mission, si vous voulez, c'est je vous renvoie par exemple aussi à l'historien que je citais tout à l'heure, Serge Grusinski, qui montre bien aussi que c'est pas peace and love, hein, la mission, c'est très loin de là, c'est militant. Voilà, c'est militant, et la réussite aussi de la mission, à quoi ça se mesure? Ça se mesure au nombre de convertis, très clairement, que vous avez fait. Donc oui, vous êtes en concurrence, et oui, vous voulez avoir plus de convertis que votre voisin. Votre voisin missionnaire, on va dire. Donc ça, c'est pas... Peut-être ça peut choquer, si vous voulez, spirituellement, aujourd'hui, mais ça pose pas, si vous voulez, de problème, on va dire, spirituellement, à l'époque. Alors, pour ce qui est du contexte religieux japonais de l'époque, c'est... C'est assez complexe, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, quand on dit bouddhisme, c'est un peu vague au final. Vous avez plusieurs, comme on dit, branches, en quelque sorte, hein, si vous voulez, du bouddhisme à cette époque-là. Alors, je serais même incapable de toutes vous les citer, il y en a tellement. Mais, on va dire, la caractéristique du XVIe siècle, c'est la présence, en fait, de certains monastères qui sont des monastères armés, en fait. Ces fameux moines-soldats que j'évoquais tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que vous avez ce contexte des moines-soldats? C'est que, en fait, il faut avoir ça aussi en tête, c'est que le contexte du Japon du XVIe siècle, politiquement, est très fragmenté, en fait. Le Japon au XVe et jusqu'au milieu du XVIe siècle, c'est une guerre civile, si vous voulez, entre les seigneurs locaux. Vous avez une multitude de petits seigneurs, en fait, qui passent leur temps à se faire la guerre, et en fait, qu'est-ce que c'est que les certains bons, hein, pas tous, hein, évidemment, mais en fait, certains ordres religieux, c'est quoi? C'est des seigneurs à part entière. Ils ont des terres, ils ont des monastères qui sont très puissants, et donc ils se sont constitués des sortes de milices pour défendre leurs terres. Voilà, c'est des moines soldats au même titre, tu vois, que voilà, on a bien les Templiers, hein. Donc c'est pas de ce point de vue-là. C'est pas une exception. Et donc, si vous voulez, comment est-ce que... Donc, en fait, qu'est-ce qui est entamé au Japon au cours du XVIe siècle? C'est que ce processus de fragmentation commence par trouver une fin. C'est-à-dire que, tout simplement, il y a quoi? Il y a un seigneur qui va émerger, plus puissant que les autres, et qui va commencer par réunifier le pays. Et donc, comment est-ce qu'il perçoit ce seigneur, ces moines-soldats? Vous voyez, c'est pas... Est-ce que, fondamentalement, est-ce qu'il a une opinion sur la religion, on va dire, les préceptes religieux qui sont professés? La plupart du temps, ils n'en ont aucune, voire ils s'en fichent complètement. Par contre, que ça soit un pouvoir de type politique qui se dresse contre eux dans le processus d'unification, c'est ça qui est mal accepté par les dirigeants. Et donc, c'est l'opposition, si vous voulez, contre notamment ces moines bouddhistes, elle est essentiellement de nature politique, beaucoup plus que de nature religieuse. C'est ça qu'ils transposent, si vous voulez, notamment après vis-à-vis vis-à-vis des jésuites hein, ou des franciscains. C'est leur potentielle action politique et les liens qu'ils peuvent avoir donc, avec les ibériques et les tentatives d'invasion ibérique qui gênent le pouvoir japonais beaucoup plus que la spiritualité, si vous voulez, chrétienne, franciscaine, jésuite, ça, ça leur passe complètement au-dessus. Hein. Ça les intéresse pas.
Bonsoir. Qu'a dit le Mikado ?
Alors, l'empereur Sui n'a pas de pouvoir à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a un rôle essentiellement religieux, déjà encore à cette époque-là. Donc, si vous voulez, toute façon, d'ailleurs, les missionnaires ne vont pas discuter avec lui. Ils ont très bien compris ça depuis François Xavier, celui qui s'est rendu dans la capitale en 1549, en 1550, s'est rendu compte que de toute façon tout était détruit, l'empereur n'a aucun pouvoir, donc avec qui il faut négocier ? Il faut négocier avec les seigneurs locaux, et ensuite avec le seigneur qui va s'imposer aux autres. Voilà, l'empereur, il est laissé sur la touche, hein, complètement.
Et même en 1862 ?
Ah bah là, vous voyez, il n'y a plus de missionnaires en fait. Donc entre 1614, si vous voulez, et la réouverture du Japon, alors, vous avez des chrétiens, mais on va dire le nombre de missionnaires, ça va s'arrêter au milieu du XVIIe siècle.
Merci beaucoup encore. Nous allons en rester là. Vous pourrez toujours continuer la conversation avec Madame Bittan autour d'un verre. Je vous donne les dates de deux prochains événements. Le premier organisé, enfin, le second dans le temps, le plus lointain, organisé par les amis de la bibliothèque, c'est le 25 mai, mardi soir 15 mai, une soirée avec la sœur Marie-Bénédicte du monastère, Clarisse du monastère de Cormontreuil, sur le testament de Sainte-Claire. Elle étudie les traductions françaises de la fin du XIVe siècle, de Sainte-Colette jusqu'à la Révolution française. Et à partir de là, elle établit une histoire de la fidélité à Sainte-Claire à travers les siècles chez les Clarisses. Et autre rendez-vous, c'est ce vendredi, à 15h, ici même, l'école franciscaine de Paris organise un séminaire avec quelqu'un qui est venu parler en 2016, ici même, Rémi Valégeot, dominicain, sur l'iconographie de Saint-Dominique et Saint-François, la rencontre Saint-Dominique et Saint-François. Donc, c'est ouvert à celles qui le désireraient. Ça dure de 15h à 18h. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.